du CAC 40. Le groupe est parvenu à placer une émission obligataire à des taux légèrement négatifs, malgré leur maturité de 6 ans. Engie, en hausse de 2,6%, a lui bénéficié d'une appréciation favorable du banquier Goldman Sachs. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI.
Merci Cécile Lecause. Avec vous se termine ce journal et toutes ces infos, c'est à suivre en direct 24 heures sur 24, bien entendu sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Dans quelques secondes, 18h10 à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on n'entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus. Et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
De l'oreille curieuse, la quotidienne culturelle et des découvertes sur le 101.5 FM de Radio G. Je suis très contente d'avoir pu vous fabriquer une émission pour vous accompagner ce soir pendant 40 minutes. On va prendre un peu de recul, surplomber ensemble la vie culturelle angevine à travers le regard d'un magazine culturel régional. Je reçois ce soir le magazine Costar, K-O-S-T-A-R. Grâce à la voix de son directeur de publication et de rédaction, Patrick Thibault. Ensemble, nous parcourrons leur dossier sur le nouveau et renouveau culturel angevin, disponible actuellement, que vous le trouviez sur votre chemin ou bien sur leur site internet. Nous parlerons également des problématiques actuelles du monde de la culture et celles qui se posent à un média culturel gratuit comme Costar. Derrière le micro et la table de mixage, c'est Anne-Lie pour tenir la barre de cette émission. Sachez d'ailleurs que j'ai rêvé du studio, de l'antenne et de vous cette nuit même. Et le proverbe que je partage avec vous aujourd'hui est plein de sagesse. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. S'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. C'est un proverbe tibétain. Restons calmes. Je nous souhaite bonne chance pour garder toute notre sérénité, c'est possible. Bien entendu, nous débutons cette émission en musique, avec une programmation musicale 100% angevine ce soir. On commence avec le duo pop Kiss Doom Fate et le titre Roseville Kiss.
Heartless.
Kid never a match to sad slave to the green for eternity. Just one last rose filled kiss.
Alors, je suis très contente d'accueillir un invité en studio à nouveau. On va parler de presse culturelle gratuite et des nouvelles dynamiques culturelles à Angers. Patrick Thibault, bonsoir.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes directeur de la publication et de la rédaction de CoStar.
Ça fait pompeux un peu.
Si c'est ce que vous faites, on peut le dire.
Oui, mais c'est le mot directeur.
Ah oui, bon, alors ça je vous laisse voir... au sein de CoStar.
Okay.
Et CoStar, donc, c'est le magazine Culture et Tendance de l'Ouest, un magazine qu'on a sans doute déjà tous et toutes croisés.
J'espère.
On le retrouve gratuitement dans plein de lieux, dans la région des Pays de la Loire et en Bretagne. Avant de parler en détail du dossier que vous avez consacré ce mois-ci, dans le dernier numéro, alors c'est des numéros sur deux mois, pour être très exact. Donc dans ce dernier numéro, vous consacrez un dossier à Angers et à sa vie culturelle renouvelée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui fait l'identité de CoStar ?
Alors CoStar, c'est un magazine culture et tendance. En fait, c'est le magazine de la création. Et quand je dis que c'est le magazine de la création au sens large. C'est-à-dire que pour nous, les créateurs, c'est tous les artistes de toutes catégories confondues, aussi bien des musiciens que des plasticiens, mais on considère aussi, et depuis toujours, c'était moins le cas, c'était moins évident parce que c'était vraiment pas du tout à la mode et pas du tout tendance il y a 12 ans, les chefs cuisiniers sont aussi pour nous des créateurs, comme tous les artisans d'art, c'est vraiment au sens large. Et donc le magazine, en fait, c'est un magazine gratuit au service du public et au service de ses créateurs. Et donc on le met à leur disposition pour qu'ils s'en emparent. C'est aussi pour ça qu'à chaque numéro, on confie l'habillage à un ou une graphiste différente du territoire, uniquement du territoire, pour habiller le magazine, penser un nouveau logo, refaire la une et refaire l'identité graphique de la totalité du magazine. C'est une carte blanche aux artistes, on aime beaucoup ça dans CoStar.
Ouais, et puis c'est vrai que ça fait à la fois un magazine qui est toujours le même et puis qui est complètement renouvelé, enfin
c'est...
L'aspect graphique est aussi important.
On essaie de se renouveler de cette manière, et puis ça fait de chaque numéro un peu un collector, d'autant plus que CoStar, on peut le consulter en PDF, hein, ce qui est pratique en ce moment, parce qu'avec les lieux culturels fermés, c'est un petit peu plus compliqué de tomber dessus, je ne le nie pas. Mais CoStar, c'est quand même un pari sur le print, hein, et donc ce qui est important, c'est d'avoir l'objet avec son dos carré-collé, son papier épais. C'est un collector.
C'est un magazine qu'on emmène avec soi, qu'on feuillette, qu'on touche. Ouais. Vous avez aussi, j'ai l'impression, une position en tant que média culturel qui vous permet d'avoir une vue globale de la vie culturelle dans la région et dans l'Ouest en général.
On essaie.
Je vous le souhaite. Dans le dernier numéro, donc, qui est sorti en décembre, vous consacrez votre dossier au renouvellement du paysage culturel à Angers.
Oui.
Alors effectivement, on peut soit avoir la chance de le trouver, soit le trouver en ligne sur votre site. Et c'est vrai que ces derniers mois, Il y a eu beaucoup de mouvements dans les structures du territoire. On a un nouvel adjoint à la culture avec Nicolas Duftel. On a une nouvelle direction du CDN avec Thomas Joly. Une nouvelle direction au CNDC avec Noé Soulier. Et puis l'arrivée de Mélanie Alétru comme directrice du Chabada. On retrouve ces quatre personnes en entretien dans votre dossier. Puis il y a encore d'autres mouvements, la direction du THV qui a changé, la direction des Beaux-Arts.
Tout à fait.
Ça bouillonne pas mal. Qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec ces nouveaux acteurs?
Alors, si vous voulez, je suis obligé de recontextualiser un peu parce qu'en fait, comme vous l'avez dit juste avant, c'est vrai que je regarde ça à l'échelle de la zone Costard. Et la zone Costard, c'est la totalité de la région Bretagne et la quasi-totalité des Pays de la Loire, moins la Sarthe, qui n'est pas intégrée au magazine, tout au moins pour l'instant. Et donc, il y a des cycles. Il y a des cycles dans les villes. Et Costard, à la base, ça a été conçu autour d'un triangle, qui était un triangle de trois villes, qui était Angers, Nantes et Rennes. Et on avait ces trois villes qui n'avaient que 100 km d'écart, et on a considéré, à ce moment-là, qu'avec ces trois villes, on avait une force exceptionnelle, et que ça nous permettait de créer un magazine aussi ambitieux que l'était Costard. Et puis, je dois dire qu'il y a 3 ans, à peu près, je trouvais que j'avais un problème avec Angers. La vie culturelle me semblait quand même s'endormir. Je l'explique dans l'article de présentation du dossier. C'est vrai qu'il y avait une situation au CNDC qui était inqualifiable, en fait. C'était des mauvais signes envoyés pour la danse. Le CNDC, c'est à la fois un lieu de diffusion, mais c'est aussi un lieu d'enseignement. Et ce qui s'y passait était quand même assez pathétique. Et donc, on avait l'impression que... C'était juste un détail, hein, mais on avait l'impression que ça endormait cette vitalité culturelle. Dans le même temps, on a intégré Brest, qui est une ville qui s'est beaucoup réveillé, que j'aime beaucoup et que je suis très content d'avoir intégré à la zone Costard. Et puis il y a un peu plus d'un an, il y a eu une arrivée de beaucoup de nouvelles directions en même temps à Rennes. On avait fait un grand dossier pour ça. Et puis tout d'un coup, je ne m'y attendais pas, je ne savais pas, même si je connais Thomas depuis très longtemps, il y a la nomination de Thomas Joly au Quai. Et donc là, c'est tout de suite, connaissant le travail de Thomas depuis toujours, parce que Thomas est l'artiste qui a été le plus interviewé dans Costard, parce qu'il était, il est issu de la promotion du TNB à Rennes, qui est dans la zone Costard depuis toujours, et toutes ses pièces ont été présentées soit à Rennes, soit à Angers, un peu moins à Nantes. Thomas avait été moins présenté dans un premier temps, même si après il a été artiste associé au Grand T. Et donc Thomas a été interviewé régulièrement. Donc là, ça annonçait l'arrivée de Thomas, qui est quand même quelqu'un de très dynamique, mais en même temps d'un artiste très singulier, tout de suite ça pétille. Il y a quelque chose qui se passe, ça met du piment au quai, dans ce bâtiment qui est quand même une institution un peu massive, donc il faut le dynamisme de quelqu'un comme Thomas. Et puis il y a eu ensuite la nomination de Noé Soulier, dont je connaissais pas le travail, très honnêtement, et quand j'ai rencontré, j'ai découvert une personnalité que je trouve assez attachante, mais aussi un point de vue sur la danse qui me semble très intéressant, parce que il a parfaitement conscience d'être à la fois un lieu de diffusion, mais forcément un lieu d'enseignement. Et il a une vision de la danse qui sort des sentiers battus. Il a envie d'intégrer toutes les formes de danse, et pas seulement celles qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'établissement.
Donc, ils sont reconnus académiquement. Donc, voilà. Tous les parcours peuvent avoir du sens
tout à fait
dans la danse.
Et puis, il y avait la nouvelle du Chabada, je l'appelle comme ça entre guillemets maintenant, qui est un peu comme une sorte de pile électrique. On voit bien que tout le monde en parle, en bien aussi.
Mélanie Alétru.
Voilà, c'est ça. elle s'inscrit un peu différemment, c'est-à-dire qu'elle fait les choses de manière un petit peu souterraine. Elle a fait un vrai travail pour rencontrer tout le monde. Elle attend avant de sortir son programme. Et puis, même si elle est arrivée un an avant les autres, elle est arrivée elle aussi dans un contexte de crise qui a facilement plombé.
Ouais, on y reviendra.
Et puis j'avais eu l'occasion de connaître, de rencontrer Nicolas Dufetel un peu avant les élections municipales. Je trouve que c'est un adjoint qui est quand même relativement ouvert, curieux, qui a envie de faire bouger les choses et qui a une grande ambition pour la vie culturelle à Angers. Donc tout ça mis bout à bout me donnait envie effectivement de les rencontrer, de discuter avec eux. Et moi j'étais très, comme c'est moi qui ai mené les interviews, j'ai beaucoup aimé ces discussions avec les uns et les autres. Et ce que je peux dire, c'est que on les sent vraiment passionnés et envieux de faire bouger les lignes et de travailler ensemble, de faire les choses. Vraiment, il y aura ce parti pris de travailler ensemble et pas seulement de briller seul au détriment des autres.
Donc ce serait quelque chose de la synergie, du travail collectif, oui. Du partenariat aussi,
oui.
Qui ressort avec beaucoup d'énergie, effectivement,
avec
de fraîcheur.
Là,
on parle de quatre lieux emblématiques qui sont importants, mais il y a aussi plein d'autres choses
à
Angers qui travaillent.
Et donc c'est un pari sur la jeunesse, c'est intéressant de le souligner. Mais après, le renouvellement dans les institutions, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a tout un tissu associatif, il y a des lieux privés aussi, qui émergent, et il faut que cette dynamique elle imprègne la totalité de la ville, et j'ai l'impression que c'est quand même ce qui est en train de se passer. Il y a des lieux qui apparaissent, il y a des artistes qui du coup se reconnaissent dans cette démarche et qui vont avoir des envies de création différentes. Enfin, je suis très très optimiste et je suis content par rapport à ce que je disais tout à l'heure d'avoir retrouvé Angers à part entière parmi les grandes métropoles de la zone costard.
Oui, c'est vrai que vous, à votre position aussi de journalisme, vous devez aller un petit peu à un endroit, à un autre endroit. Enfin, comment est-ce que vous vous y perdez pas ? Peut-être qu'on sort un petit peu du sujet, mais pour appréhender tout ça.
J'ai plutôt envie de dire qu'à chaque fois, je m'y retrouve, justement. Ouais. J'adore. Alors bon, moi, il se trouve que je suis basé à Nantes, donc quand je viens à Angers. Je viens pour la journée ou pour la soirée, un peu moins en ce moment pour la soirée compte tenu de la fermeture des lieux de culture, mais quand je vais à Brest, j'y vais pour 3 jours systématiquement, parce que c'est un petit peu le bout du monde quand même, mais ça permet de rencontrer les gens. Et puis même si on dit que je disais tout à l'heure que Angers, Nantes et Rennes c'est 100 km de distance, Angers c'est quand même la ville la plus proche de Nantes. Rennes c'est plus long. Alors quand je vais à Rennes, je reste 2 jours ou 3 jours aussi. Mais à chaque fois, je dis ça sans prétention et très modestement, mais moi j'ai envie de m'intégrer et de rencontrer, de discuter et de me laisser porter par ce qu'il y a dans la ville. Alors j'ai parfaitement conscience que je ne suis pas directement dans la ville, mais en même temps, parfois, j'ai l'impression que cette espèce de distance me permet aussi de saisir des choses. Même Nicolas Dufetel m'a posé la question. Il m'a demandé si finalement, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une dynamique, est-ce que ça se voyait et tout. Parce que quand on est dedans,
de l'extérieur,
ici, on ne sait pas forcément comment c'est perçu à l'extérieur. Thomas Joly m'a aussi demandé, après l'interview, il m'a dit, alors, est-ce que tu penses que vraiment ça va aller? Le programme que j'ai proposé, est-ce que vraiment il y a une dynamique qui s'enclenche à Angers? J'ai dit oui, j'ai dit évidemment que oui.
Ouais, l'interview se retourne en fait petit à petit aussi pour connaître votre regard.
Ouais. Oui.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Laissez-moi imaginer. Alors tous ces changements de direction là qu'on évoque sur la ville d'Angers, ils étaient prévus depuis longtemps. Ce qui n'était pas prévu, évidemment, c'est la crise sanitaire liée au coronavirus. On sait que la situation elle est très difficile pour les acteurs culturels, les artistes, la création, la diffusion, partager le travail.
Et pour le public.
Et pour le public, pour les médias, enfin, et même en dehors du champ culturel.
Oui, c'est ça.
La liste peut être très longue. En tout cas, vous, voilà, dans votre domaine d'action, qui est d'être média du champ culturel, comment vous voyez la situation et ses conséquences à l'échelle régionale ?
Alors, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, évidemment, je pense que c'est pareil. On pourrait même dire à l'échelle internationale, même si lorsqu'on compare par rapport à d'autres pays, on se dit qu'on a quand même un peu plus de chance en France, ce qui va à l'encontre de ce que je dis en ce moment, puisque je ne comprends pas la position du Premier ministre et de la ministre de la Culture. L'exception culturelle française n'existe donc pas. Elle n'a pas été prise en compte par ce gouvernement qui peut rouvrir les lieux de culte, rouvrir les commerces, les centres commerciaux, mais pas les lieux de culture, ce qui est incompréhensible. C'est à la fois incompréhensible et profondément injuste parce que les protocoles sanitaires y étaient vraiment respectés. Thomas Joly avait justement créé la saison qu'elle était l'an passé à son arrivée. Il y a eu quand même beaucoup de spectacles pendant tout l'été. C'était d'ailleurs un exemple hein, en France. Il n'y a pas eu de clusters qui ont été repérés. Donc là, on a un problème. On a un problème sérieux. Et puis, ça dure parce qu'on nous ressort toujours le même discours. C'est attendez un peu, on va réouvrir. Et puis, on ne réouvre pas. Et donc, derrière tout ça, y a beaucoup de détresse. Il y a à la fois les institutions dont on parlait. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà du crève-cœur que c'est pour eux, elles vont s'en sortir, elles sont subventionnées, mais il y a aussi énormément de petites compagnies, des artistes qui ne peuvent pas se produire. Il n'y a pas que la question de l'intermittence, il y a vraiment la question des compagnies de théâtre, des compagnies de danse, des compagnies de cirque qui n'ont rien, qui n'ont plus de revenus. Et puis, il y a le public qui doit s'habituer à vivre sans ça, et on ne peut pas s'habituer à vivre sans aller au concert, que ce soit dans une salle ou dans un bar ou dans un festival, aller au spectacle, aller visiter une expo. Franchement, en ce moment, les musées seraient réouverts. Est-ce que les musées seraient pour autant pris d'assaut? Est-ce qu'on courrait le moindre risque dans les musées? Enfin,
il y a beaucoup d'incompréhension.
Il y a beaucoup d'incompréhension et d'injustice. Et puis, c'est un désastre. En plus, j'ai envie de dire que c'est un désastre financier. Et les artistes n'ont pas, a priori, envie d'obtenir des dédommagements, des subventions exceptionnelles, ces choses-là. Ils ont envie de travailler et de vivre de leur art. Et actuellement, on en est empêché.
Oui.
C'est scandaleux.
Puis c'est aussi très compliqué pour tous les jeunes artistes, les jeunes compagnies, qui du coup
évidemment
peuvent pas forcément faire valoir le travail passé. Ou
évidemment, il va y avoir, c'est Mélanie Alétru qui explique ça très bien dans l'interview, elle dit finalement il va y avoir des reports, et puis il y a des projets qui devraient émerger actuellement et qui ne vont pas émerger. Et donc, on va certainement mettre plusieurs années à s'en remettre, avec aussi des productions qui vont disparaître. Dans le domaine des musiques actuelles, c'est la sinistrose. Comment peut-on...
Mais c'est certainement le domaine pour lequel c'est le plus compliqué aujourd'hui. En tout cas, d'avoir des perspectives de retour, si on imagine des concerts où on peut...
Oui, si on regarde en détail,
danser.
Il y en a beaucoup où c'est finalement très, très compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas le plus facile, parce que le concert debout, que ce soit en salle ou au festival, c'est pas pour demain.
Oui, c'est bon. Alors, on pense bien sûr aux conséquences pour les artistes, pour la création. On était en plein dedans, mais il y a aussi, pour vous, en tant que média, en tant que magazine, forcément, ça a des répercussions. Alors, comment vous avez dû vous adapter? Peut-être d'abord sur le contenu. forcément, on est confronté aux mêmes problématiques à la radio, de tout ce qu'on évoquait habituellement.
Ah oui, c'est difficile
lieu.
De trouver du contenu, oui.
Ça peut être un peu plus difficile.
Ça, c'est sûr. C'est vrai que quand il n'y a pas d'actualité, c'est une situation inédite, c'est jamais arrivé. Donc, il faut réfléchir, il faut penser un peu différemment. On peut, sur Costard, on peut trouver des solutions parce qu'on n'est pas totalement lié à l'actualité. Justement, on prend un peu de recul, on donne des cartes blanches aux artistes, on donne la parole avec des interviews. Donc, il y a des possibilités. Alors, évidemment, il y a des rubriques qui n'ont pas disparu, mais qui sont un petit peu en vacances, comme le chef, oui, chef. Bah oui, en ce moment, avec les restaurants fermés, bah, on va plutôt regarder du côté des vignerons. On a intégré les coups de cœur des libraires plutôt qu'avoir la ville ailleurs qui est une ville décrite par un artiste ou par la rédaction, puisqu'en ce moment, les villes ailleurs sont très lointaines.
Ouais.
On s'adapte de ce point de vue. Après, bah oui, je vous cacherai pas que économiquement c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a créé avec l'ensemble des gratuits culturels de la région, on a lancé un appel de la presse gratuite culturelle indépendante.
Oui, est-ce que vous n'êtes pas du tout les seuls et vous avez signé cet appel avec 12 autres médias.
C'est ça. Et depuis, il y a la région Grand Est qui a repris notre manifeste et qui a lancé le même appel, et on se dirige vers une démarche nationale. Mais je veux rendre à César ce qui est à César, ou à Angers ce qui est à Angers. La démarche initiale, elle est venue du Sénat. Et donc c'est grâce à Suzy du Sénat, Suzy Massel, qu'on a commencé à discuter et qu'on a créé des choses ensemble, qu'on a créé cette dynamique, ce qui nous a fait un bien fou à tous les médias, parce qu'on avait des problématiques qu'on n'arrivait pas à gérer les uns et les autres, et le fait d'en discuter entre nous a vraiment été très bénéfique, parce que souvent on avait pas tellement l'habitude de discuter. Moi, je discutais pas avec Suzy du Sénat et c'était vraiment dommage.
Ouais, ça peut être quelque chose de positif qui émerge de cette crise. Faut bien chercher un peu de.
Oui, on essaie de chercher des choses.
Je fais de mon mieux. Hein.
Oui, mais on essaie de trouver des choses positives, mais on sait bien qu'à un moment donné, ça va s'arrêter tout ça et que quand ça va s'arrêter, on n'a pas du tout envie de rebasculer dans le monde d'avant sans tenir compte de ce qui s'est passé, mais enfin il y aura quand même une envie pressante de faire la culture ensemble, parce que la culture c'est pas regarder des vidéos sur le net ou être derrière un écran, ça suffit pas. Je veux bien que ça fasse partie de la culture, hein. C'est pas le sujet, je suis pas en train de dire que ça n'en fait pas partie, mais l'essentiel de la culture c'est quelque chose c'est des émotions qu'on partage ensemble
et des présences aussi. Ce qui m'a frappé aussi en lisant cet appel, donc qui parle vraiment des spécificités de vous en tant que média culturel gratuit, c'est le fait que vous étiez entre deux zones quelque part. Que oui. Quand vous faisiez appel à des aides culturelles, on vous renvoyait à la position de média.
Oui.
Et à l'inverse, pour les aides de médias, on vous renvoyait à la position d'acteur culturel.
Ouais. Ouais.
Comment ça se résout, cette équation ? Est-ce que les choses se sont un peu...
Non, les choses ne se sont pas résolues, mais en fait, ce qu'on nous reproche, pour être un peu plus clair, on nous reproche d'être gratuit. Or, ça revient aux origines de Costard. Quand on a créé le magazine, on voulait absolument qu'il soit gratuit, parce que la culture pour tous, ça passe aussi par l'accès aux médias par tous. Et donc, le seul moyen, c'est de mettre les magazines aussi à disposition. Et quand on a créé Costard...
Vous avez créé Costard en quelle année ?
Il y a 12 ans. Et donc, quand on a créé le magazine, on a dit tout de suite, c'est un gratuit, mais pas au rabais. Et on a voulu créer un gratuit comme s'il avait été payant. Or, on ne bénéficie pas de ce qui fait la reconnaissance de la presse, qui est la commission paritaire pour les magazines. Les seuls gratuits qui bénéficient de cette commission paritaire sont les quotidiens gratuits, parce que ce sont des émanations des quotidiens payants. Et le lobby de la presse payante a toujours fait en sorte qu'on soit écarté de tous ces dispositifs. Et donc, il y a un maillage extraordinaire. Quand vous prenez le nombre de titres qui existent au plan régional, mais aussi au plan national, c'est énorme. Mais ces titres-là ne sont pas connus du ministère, qui est pourtant le même, le ministère de tutelle, que pour la culture, puisque c'est aussi la culture qui gère l'information et la communication.
Oui, ministère de la Culture et de la Communication. Ouais.
Voilà, donc on nous considère souvent un peu trop culturel quand on veut être reconnu comme des médias, et un peu trop comme des médias quand on a envie de dire qu'on est aussi des acteurs culturels. Mais bon, c'est comme ça, on vit avec, et puis on continuera de faire entendre notre cause, et parce qu'elle est juste.
Oui. Ça fait c'est intéressant aussi de voir les angles morts des institutions. Qu'est-ce qu'on n'avait pas envisagé par rapport à la diffusion de Costard, donc qu'on trouve habituellement, en tout cas hors crise sanitaire, dans les lieux de passage, dans des lieux culturels aussi. Comment vous avez pu l'adapter?
Alors on a évidemment on est privé des lieux de culture, même s'ils en ont, il y a quasiment pas d'accès à ces lieux, donc ils peuvent difficilement le récupérer là. Mais bon, il y a des parades quand même. Toutes les médiathèques ont vraiment été approvisionnées avec des quantités plus importantes. On peut trouver le magazine à l'office de tourisme, et puis il nous reste les commerces en ville qui sont ouverts et qui ont pris des magazines. Je parlais tout à l'heure des coups de cœur des libraires, donc ouais. On a renforcé aussi les quantités chez les libraires qui, eux, ont été empêchés d'ouvrir au début et qui, fort heureusement, ont pu rouvrir assez rapidement grâce à la mobilisation qu'il a pu y avoir pour défendre justement ce qui était une juste cause.
Parmi tous les sujets qu'on a évoqués, abordés, est-ce que vous voyez des choses qu'on a oubliées ou qui vous sont importantes à partager? C'est pas souvent qu'on se retrouve derrière ces micros.
Oui, non, mais il y a certainement plein de choses. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire, parce que c'est un peu le discours du gouvernement, et j'ai envie de dire aussi le discours vu de Paris. Il faut arrêter de dire que les salles sont fermées partout en Europe. C'est faux. À Madrid, on continue d'aller au spectacle, et pourtant la crise frappe fort. Au Luxembourg, on continue d'aller au spectacle. En Autriche, on peut aller au spectacle. Et puis ça évolue un peu selon le contexte sanitaire, selon les pays, mais il y a quand même une possibilité de réouvrir les lieux. Et aujourd'hui, Roselyne Bachelot, la ministre, nous dit qu'elle veut rouvrir sur la base d'études scientifiques. Or, moi, j'aimerais beaucoup qu'on me montre les études scientifiques pour la réouverture des églises ou la réouverture des centres commerciaux. Parce que je n'ai rien contre. J'ai rien contre le fait qu'on réouvre les églises. Mais si on réouvre des lieux clos, je ne vois pas pourquoi on ne réouvrirait pas les lieux de culture où les protocoles sanitaires, comme je l'ai dit, ont été respectés. Donc il faut continuer de se battre pour la réouverture des lieux, parce que c'est une injustice profonde, et parce que le public, il n'y a pas que les artistes et les gens qui en vivent, qui en souffrent, il y a aussi le public qui est privé de culture, et quand on est privé de culture, ça finit jamais bien. Et donc la culture, c'est vraiment ce qui fait sens, et c'est indispensable, donc on ne peut pas s'en passer. Il faut continuer à être dans cette dynamique et revenir à une ouverture des lieux dans le respect des normes et le plus vite possible.
Bon, ce sera des bons vœux pour 2021.
Oui, moi je ne souhaite pas une bonne année, je souhaite une meilleure année.
Oui, on en est un petit peu tous là.
Oui.
En tout cas, et puis effectivement, il y a des problématiques tellement diverses selon les lieux de culture. Quoi qu'il en soit, vous continuez, vous, vos activités avec Costard?
Oui.
Autant que possible.
Ah bah oui, 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 non, non, mais sinon, comme je l'ai écrit dans le magazine, dans l'édito, ne pas paraître, c'est mourir. Donc, il faut essayer de paraître. En même temps, une fois qu'on a dit qu'on allait paraître, il faut aussi que ça ait du sens. Il faut avoir
des choses à transmettre, bien sûr.
Il faut avoir des choses à transmettre, et il faut traduire une forme de d'aspiration à la culture et au spectacle vivant. Parce que j'ai envie de dire qu'il faut que le spectacle vivant soit vivant.
Et le prochain numéro sortira début février. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on va y trouver ou c'est encore en travail?
J'aimerais bien vous le dire. Mais en fait, on sortira dès que possible.
Ouais.
Est-ce que ce sera début février? Je n'en sais rien. Puisqu'il faudra quand même que les lieux réouvrent pour qu'il y ait un peu d'activité quand même. Et puis ensuite, on va certainement, comme d'habitude, le savoir au dernier moment. Donc on va s'adapter, on va être réactif. Oui, je pourrais dire qu'il va habiller le magazine, mais je le dis jamais à l'avance d'habitude, donc je vais pas le faire.
Secret.
Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore calées sur le prochain numéro. On s'adaptera et on essaiera de coller à l'air du temps, puisque c'est aussi la démarche de Costard, quoi qu'il arrive, et ce sera avec les artistes qui font partie de la famille Costard, puisqu'il y a des artistes qu'on suit depuis longtemps et qui ont bien besoin qu'on continue de les accompagner en ce moment.
Bon, j'espère que tout ce travail se fera aussi sereinement que possible. Merci beaucoup.
Espérons. Merci beaucoup à vous.
Donc Patrick Thibault, je rappelle que vous êtes le directeur de publication et de la rédaction du magazine Costard. Si on veut lire votre dernier numéro, qui est déjà disponible, on peut le trouver dans différents endroits. Et sinon, il est en ligne sur le site costard.fr. Costard avec un K, évidemment.
KOSTAR.fr.
Vous êtes un pro. Et donc, il y a ce dossier sur les nouvelles ambitions à Angers qui est très intéressant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était African Running des Wild Fox, un groupe angevin qu'on aime bien. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de cette Oreille Curieuse. Vous pouvez réécouter l'émission en intégralité grâce au podcast sur le site de Radio G, à la page de l'émission, donc qui porte son nom. On se retrouve demain à 18h10 et nous serons avec le Guichet Choral, la chronique cinéma de Céleste, et le Prêt-à-penser, la chronique psychologie de Nicolas. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire. J'attends vos mails grâce à l'adresse prog.radioG@gmail.com. Si vous avez une idée de sujet, si vous pensez qu'on a dit n'importe quoi, ou si au contraire cette émission a bouleversé votre vie, je serai toujours ravie de vous lire. Vous pouvez aussi interagir avec nous et suivre les actualités de Radio G sur les pages des réseaux sociaux que nous avons, tels que Twitter, Instagram ou Facebook. À 19h, dans une dizaine de minutes, vous retrouvez Tendance à me plaire pour leur première émission de l'année 2021. Ils seront ce soir avec le photographe angevin Aichi. Passez une très belle soirée, à demain.
www.radio-g.fr ways I've been hurt on you. Don't you see the clouds coming down on you? My feelings have been hurt on you. Don't you see the clouds coming down? I'm just falling for you. I guess I'm just falling.